Les pieds sur terre, rediff d'été, c'est parti et c'est tous les jours de l'été à 14h30, des rediffusions qui sont classées et organisées par année et qui s'appellent du coup cette année-là. Cette semaine, c'est la saison 2002-2003, la première des pieds sur terre. Et aujourd'hui, je vous propose d'écouter ou de réécouter l'histoire de Kaina, la sœur de Sohan, une jeune fille qui avait été immolée à Vitry à l'âge de 17 ans dans un local à poubelle de la cité Balzac, c'était en 2002. L'association Ni Pute Ni Soumise était créée dans la foulée. L'année suivante, la marche des filles des quartiers allait commencer. Nous sommes en mars 2003 donc, et c'est à l'occasion de cette marche et de la création de l'association Ni Pute Ni Soumise que nous avions diffusé pour la première fois Kaina, Ni Pute Ni Soumise, un reportage de Leïla Djitli. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Cette année-là.
Horreur et incompréhension à Vitry-sur-Seine où hier soir une jeune adolescente de 17 ans a été retrouvée morte, brûlée dans un local à poubelle d'une cité populaire.
Swann habitait à quelques centaines de mètres de la cité Balzac, dans le quartier tout le monde se connaît. Toute la journée, amis et voisins de la jeune fille sont allés présenter leurs condoléances à la famille. Personne ne réalise vraiment ce qui s'est passé. La jeune fille aurait été aspergée d'alcool avant que le ou les agresseurs n'allument un briquet. Devant les immeubles, quelques mères de famille en discutent. Elles ne sont pas rassurées, même si les jeunes ne veulent surtout pas que la psychose s'installe. France Inter.
Je reviens de Vitry et puis je suis partie déposer avec mon papa des fleurs. Et puis la plaque qui a été déposée quelques mois après la mort de ma sœur a été cassée, quoi.
Elle était où, cette plaque?
Là où elle a rendu l'âme, c'est-à-dire sur le carré de pelouse où elle s'est effondrée, quoi. Et on a déposé cette plaque pour essayer de faire prendre conscience aussi bien aux filles et aux garçons que le respect ne signifiait pas soumission. Et même ce misérable message de respect, de dignité, je trouve qu'il est même pas... Je ne vois rien, quoi. Et le fait que du jour au lendemain, on puisse brûler ses fleurs, et c'est quelque part, on l'a une fois de plus brûlé, quoi.
Ni pute, ni soumise, symboliquement, la marche des filles de quartier commença le 1er février à Vitry-sur-Seine, sur les lieux mêmes où Sohan fut immolée. La mort de Sohan se situe au début et à la fin de cette marche. C'est à la fois son point de départ et le lieu ultime de la barbarie. Aujourd'hui, dans les pieds sur terre, à la veille de l'arrivée des filles, Kaina, la sœur de Sohan, 20 ans, revient sur ce tremblement de terre. Un reportage de Leïla Djitli.
Rentrer dans la cité Balzac, c'était vraiment pas illuminé, c'était aller voir ses copines tout bonnement. Même quelque part, j'ai l'impression qu'elle voulait même apaiser les choses. C'est dire, bah voilà, moi je cautionne pas l'acte de mon copain vis-à-vis de ta copine. Mais bah lui il avait la haine et puis la rage, quoi. Et puis il en avait tellement marre de voir cette fille qui rentrait librement dans un territoire qui ne lui appartenait pas, apparemment. Et ben, il l'a puni, quoi. Une fois de plus, ça s'est passé en banlieue, ça regarde que les banlieues après tout. C'est la vie des cités et ça nous regarde pas, ça regarde pas la bonne société. C'est plus facile pour les médias ou pour certaines personnes d'affirmer que c'est un regrettable accident. Alors que ça va beaucoup plus loin qu'un accident.
Et le fond, c'est quoi alors? Si c'est pas une querelle d'amoureux, c'est quoi?
Le fond, c'est l'insoumission de ma sœur. Ma sœur, elle a été dégradée comme on dégrade un objet. En brûlant ma sœur, je crois qu'il a brûlé toutes les femmes, je pense. Et donc, au-delà de l'individu que représentait ma sœur, c'est vraiment la symbolique de la femme qu'il a brûlée. Et il aurait pu faire autre chose. Non, lui, c'est le feu. Et le feu, ça signifie quoi ? C'est réduire en cendres. Quand une femme est menacée, hein, c'est toutes les femmes et toute la société qui est menacée. Et je pense que certaines personnes ne l'ont pas compris. Quand j'essaie d'instaurer le dialogue avec certains garçons et que certains garçons me disent « Ouais, mais ta sœur, elle l'a cherchée ? Est-ce qu'on cherche d'être brûlée ?» Quand j'entends certaines filles « Oui, mais attends, t'as vu Sohan comment elle était ?» Effectivement, le fait qu'elle se maquille, le fait qu'elle soit insoumise aux garçons, à certains garçons, inconsciemment, certaines personnes pensent que le respect passe par la soumission. Et le fait que ma sœur soit insoumise, effectivement, ça leur paraît choquant, voire déplacé. Et ça, c'est... Il faut condamner ça et donc punir. Ma sœur, à aucun moment, je veux dire, elle était belle et elle savait cultiver sa beauté. Et puis, pour elle, les rues de la cité Balzac ou Bourgogne où nous vivions et les rues des Champs-Élysées étaient identiques pour elle. Elle se baladait comme elle voulait.
Ce que vous voulez dire, Kaïna, c'est que la beauté aussi, ça peut être une arme de rébellion, une manière de se révolter, de montrer son insoumission.
Quand on la cultive, oui. Je veux dire, quand on porte des baskets, la panoplie basket, survêt, typiquement masculin, effectivement, ça c'est pour se protéger.
Cacher leur féminité.
Voilà, exactement, ce qu'elles représentent, c'est-à-dire des femmes. Et ma sœur, non, elle ne suivait pas du tout ce chemin. Ma sœur, elle est de la première à s'habiller librement, à s'habiller de façon... Enfin, elle était belle, donc toute... Elle avait une beauté tellement criante et elle avait aussi une beauté intérieure. Donc, je pensais que c'était une garantie de bonheur. En fait, je me suis trompée. Elle était trop belle pour vivre dans une cité. Il est évident. Elle était trop, trop belle. Elle était tellement magnifique que... elle était trop belle pour la cité Bourgogne et était trop belle pour la cité Balzac. Normalement, beauté ou pas, on ne devrait pas vivre dans ces cités-là. Mais ma sœur, elle avait ce rêve d'être, de devenir chanteuse, parce que en plus d'être belle, Madame chantait divinement bien. Donc, et quand elle chantait, on avait l'impression qu'on avait une espèce de Céline Dion des banlieues, quoi. C'était ma petite sœur et enfin moi je sais qu'elle m'admirait et moi je l'admirais énormément et moi je veux que enfin je voulais qu'elle s'en sorte quoi et je voulais aussi qu'elle puisse réaliser ses rêves parce que c'est quoi le bonheur en fait le bonheur c'est le bonheur des autres de ses proches elle voulait devenir puisque la voix de la musique et tout ça, on sait tous que c'est un milieu réservé. Et, elle me disait, je vais entamer une formation d'esthéticienne. Moi, j'aurais préféré qu'elle me dise, je vais entamer des études de droit. Mais bon, je me suis dit, après tout... Et puis, voilà. Et puis, quand elle m'a regardée, elle a vu que j'étais... qu'il y avait toujours cette exigence de ma part. Et puis elle m'a dit, « Ouais, mais tu sais, moi, je vais peut-être commencer comme esthéticienne, en tant qu'esthéticienne, mais après, j'aurai plein d'instituts à mon nom. » Et là, je me suis dit, « Je vais pas lui casser son rêve. » Ma sœur, je sais que j'allais remplacer Claire Chazal et que j'allais signer le journal de 20h. Et puis elle me regardait, elle me disait, « Ouh là là, elle est encore plus folle que moi, elle. » Mais... nous, on avait cette capacité de pouvoir rêver, quoi. Et ça, personne ne peut nous l'enlever non plus. Hein. Moi, je comprenais ses rêves et elle comprenait les miens. Donc, je veux absolument lui montrer que sa sœur signe le journal de 20h sans pour autant remplacer Claire Chazal. Thank you. fois, je me remets en question et puis je me dis, si j'avais été son grand frère et non pas sa grande sœur, probablement que personne ne l'aurait touché. Mais ma seule utilité, j'ai l'impression, c'est de faire en sorte que sa mémoire soit respectée et qu'elle soit pas morte pour rien, quoi.
Pourquoi est-ce que si vous aviez été un grand frère, ça aurait été différent, Kaina ? Expliquez-moi ça.
Mais parce que j'aurais eu ce pouvoir que les garçons ont. Tous les garçons ont un pouvoir que les filles n'ont pas. D'une part, c'est cette supériorité physique et cette supériorité, je dirais, morale, quoi. Quand on passe devant des garçons, on baisse les yeux et ça, c'est faire preuve d'infériorité quelque part. Et si j'avais été un garçon, probablement que j'aurais été très rigide ou très... Je sais pas comment j'aurais été. Mais une chose est sûre, j'aurais protégé ma sœur de façon peut-être même physique et virulente.
Qu'est-ce que vous aviez écrit sur cette plaque, Kaina ?
Le message dit « Pour la mémoire de Sohan, pour que filles et garçons vivent ensemble dans le respect et dans l'égalité. » Pas de raison qu'on laisse ces citoyennes de second rang désespérées et se démêler toutes seules, quoi. Parce qu'il est évident qu'elles se battent pour acquérir une misérable liberté, qu'elles volent au nom de la démocratie. Cette fameuse démocratie, cette fameuse république qui, j'ai l'impression, n'accepte pas ou ne met pas tous ses enfants sur un même piédestal, quoi. Enfin, on parle beaucoup de mixité. Et malheureusement, dans nos cités, il n'y a pas de mixité. Et comment est-ce qu'on peut découvrir l'autre ? Comment est-ce qu'on peut comprendre l'autre alors qu'il n'y a pas d'échange ? Je crois que ces garçons ont plus de mal que les filles à mettre des mots sur leur souffrance. La seule façon de s'exprimer, eh ben, c'est par la violence, quoi. Et la violence sur qui elle est orchestrée, bah, sur ces jeunes filles. Auparavant, enfin je pense, hein, les filles, les beurettes, elles se battaient pour être libres, pour sortir tout simplement.
Pour étudier.
Pour étudier, pour exactement. À l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est plus le même combat. C'est foutez-nous la paix, quoi. Laissez-nous respirer, laissez-nous vivre tout simplement. Tout à coup, on donne la parole aux jeunes filles. Alors qu'on a toujours parlé des cités au masculin. Les cités ont des pitbulles, les cités portent le foulard, les cités, je sais pas moi, brûlent les voitures. Non, c'est pas ça. C'est quelques petits cons qui font ça. C'est pas nous qui violons, c'est pas nous qui se permettent de brûler, qui se permettent de faire ceci, cela. Et donc, il a fallu qu'on assassine une jeune fille pour se dire qu'effectivement... Ah bah oui, les filles ne se mettent plus en mini-jupe, elles peuvent pas s'habiller librement. Ah bah oui, effectivement, il y a le retour du voile. Ah bah oui, effectivement, il y a ceci, il y a cela. Et non, moi, je suis désolée, mais il y a une autocritique qui doit être faite, quoi. On a été abandonnés parce qu'on n'a pas crié, on ne s'est pas révolté. C'est pour ça. À partir du moment où on ne dit rien, c'est qu'on accepte nos conditions. Moi, je me sens investie d'un double devoir. Le premier, c'est de faire en sorte que ma sœur ne soit pas morte pour rien et de faire en sorte que les conditions des jeunes filles dans ces cités s'améliorent. Enfin, je suis pas Mère Teresa des banlieues, quoi. Mais j'aimerais vraiment que certaines jeunes filles puissent vivre librement comme toutes les citoyennes, quoi, au même titre que toutes les autres.
J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des filles qui pensaient comme beaucoup de garçons des cités. Ces filles dont vous parliez, qui jouent le jeu de s'habiller comme des garçons, justement, pour nier leur féminité, en quelque sorte, elles sont un peu d'accord avec ce que pensent ces garçons.
Moi, je pense pas qu'elles sont d'accord. Moi, je pense que inconsciemment, elles sont soumises. À force d'intégrer des valeurs inférieures, et ben là, on se dit qu'effectivement, nous sommes inférieurs et... Mais il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, les filles qui ont cette étiquette de filles respectables et respectueuses, quand elles sont loin de la cité et quand elles sont loin des regards, faut pas se leurrer, elles font comme les autres filles, c'est-à-dire qu'elles flirtent, c'est-à-dire qu'elles rencontrent d'autres garçons, qu'elles vivent normalement, quoi. Mais à la cité, faut être carré, quoi. Faut pas dépasser, faut être docile, Et ils nous enferment tous. Ils sont en train de créer des prisons. Enfin, il y en a quelques-uns qui ont perdu leur jeunesse en prison, et ça, ils n'en prennent même pas conscience. Et puis quand ils sortent, le seul territoire qu'il leur reste, eh ben, c'est la cité. Et ce territoire, personne ne peut le toucher, personne ne peut...
C'est recréer la loi de la prison.
Quelque part, oui.
Dans les cités.
Tout à fait.
France Culture, les pieds sur terre.
Vous, votre histoire, elle est différente. Donc, vous êtes étudiante et vous êtes partie de la cité Bourgogne il y a un petit moment déjà.
Ouais, ça va faire un peu plus de 8 mois. Enfin, moi, je suis partie parce que je me suis accrochée à cette espèce de bouée qui s'appelle l'école. Puis mon père nous a toujours poussé à faire des études et à essayer de s'en sortir légalement. Ma première prise de conscience, ça a été quand j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans dans les centres de loisirs. J'ai commencé à fréquenter des personnes de divers milieux. Puis il y a un premier pas vers la sortie, quoi, qui est la cité. Puis ensuite, quand j'ai commencé à étudier à la fac, c'est vrai que la fac, c'est un milieu plutôt cool, plutôt léger. Et puis mon père, il a eu pratiquement que des filles et qu'un seul fils, donc... On a eu cette... quelque part, on pouvait le manipuler, mon papa. Enfin, je crois que c'est l'homme le plus formidable. Mais par le biais de son courage, le fait qu'il se soit levé tous les matins de sa vie à 4h du matin, par le biais de sa détermination, par sa prise de conscience qu'il était... privilégié quelque part, parce que vivre en Kabylie pour lui était très difficile, et quand il arrivait en France, même s'il faisait les pires boulots, il savait qu'il y avait une chance qui s'offrait à ses enfants, c'est de pouvoir étudier et d'être des privilégiés parmi les privilégiés. Bon, maintenant il est clair que c'est un homme détruit, parce que c'est comme si on avait brûlé tout ce qu'il avait fait, quoi, quelque part. Mais moi, je veux pas qu'il ait ces sentiments d'échec et je veux pas que l'humiliation qu'il a subie et l'humiliation de ma sœur soient des humiliations réussies, quoi. Je ne veux pas qu'elles soient réussies. C'est pour ça que j'essaie de me battre. Voilà, quoi.
Comment il a réagi, votre père, quand il a vu cette plaque qui a été détruite ?
Il m'a dit... La première chose qu'il m'a dit, bon, allez, viens, on part, parce que j'ai peur qu'on te fasse quelque chose à toi, quoi. Après, je lui ai dit, mais non, ils nous feront rien, t'inquiète pas. Et puis après, elle fait vas-y, va à l'école, va. Quelque part, il a peur, parce qu'on a assassiné une de ses filles. La plus grande n'arrête pas d'ouvrir sa grosse gueule. Il a peur que ça se reproduise. Quelquefois, il ne sait pas ce que je raconte, mais il sait que dans le fond, c'est un bon message. Et même s'il ne le comprend pas entièrement, il comprend mon action et ma révolte, quoi. Et il sent aussi que la seule chose qui me reste, quelque part, c'est cette colère et cette révolte. Et il sait que... personne ne pourra me la voler, donc il peut rien faire, le pauvre. Je l'adore, mon papa, enfin, il n'y a rien à expliquer, je le trouve super beau, en plus il est beau, c'est le pire. C'est vrai, il ressemble à l'inspecteur Harry, là, je ne sais plus comment il s'appelle déjà.
Clint Eastwood.
Ouais, il lui ressemble, ouais, il a les mêmes yeux, les mêmes traits, c'est vraiment, c'est un beau gosse, mon papa. Je sais qu'il a été... Il a su rester digne devant cette société qui méprise quelquefois des gens qui sont tellement merveilleux. Et donc, certes, il sait très mal s'exprimer en français, etc. Mais je peux vous garantir que le mot respect, le mot dignité, le mot égalité, le mot échange, etc. C'est transmissible en, de mille manières et de mille façons. C'est pour ça que je suis fière d'être sa fille, quoi. Je crois que j'ai eu ce privilège d'avoir eu une sœur comme Sohan et des autres frères aussi et des autres sœurs. Si on m'avait demandé de choisir entre un papa président et un papa et un papa ouvrier, ben j'aurais re-choisi encore une fois de plus mon papa. Mort de Swan, il est resté éveillé jusqu'à 4h du matin à la tente, quoi, persuadé qu'elle allait rentrer. Et puis c'est qu'après qu'il a réalisé qu'elle était morte. Et puis moi, mon père, j'ai jamais vu pleurer, hein. Vraiment jamais vu pleurer. Et puis quand il me parlait de Swan et tout ça, ça me faisait bizarre parce que je sais pas quoi, je voyais que ce béton qu'il avait construit, cette rigidité, eh ben, ça s'est frité quoi, quelque part. Et tout à coup, je voyais ben, un homme avec un grand H, quoi, qui avait ses faiblesses et qui. Et c'est le premier à avoir dit que, qu'il était brûlé intérieurement, quoi. Et quand il m'a dit ça. Bizarrement, c'est comme si moi-même je m'enflammais d'un coup, quoi, avec mes autres frères et sœurs. Et il y a cette plaque qui représente une espèce de tombe pour nous et pour sa famille, pour ses proches. Parce que comme elle est enterrée en Algérie, nous, la seule chose qui nous reste, c'est cette espèce de plaque qui représente une tombe. Quelque part, le fait qu'on la dégrade, c'est, enfin, pour moi, c'est vrai que ça fait mal au cœur.
Pourquoi est-ce que Sohan a été enterrée en Algérie, Kaina, si c'est pas indiscret?
Parce que sa maman, elle est morte quelques jours après la naissance de Sohan. Donc Sohan n'a jamais connu sa mère. Et donc, on l'a enterrée en Algérie auprès de sa maman. Et puis elle est dans un magnifique cimetière. Entourée de belles montagnes et de personnes vraiment qui prennent soin de sa tombe et qui sont là pour qui apportent de l'eau tous les matins et tout ça, c'est vraiment pour moi, je me suis dit elle a de la chance parce que elle survole les montagnes de Kabylie et puis il y a le ciel magnifique, ce soleil, et puis c'est vrai que c'est magnifique. Et puis il n'y a plus ces montagnes de béton qu'on rencontre dans nos banlieues. Les personnes là-bas ils ont trois fois rien, mais ils sont tellement solidaires. Enfin, lors de l'enterrement de ma sœur, il y avait des villages et des villages entiers qui étaient venus. Et Dieu sait qu'en Kabylie, les routes sont saccagées. Il n'y a que des cailloux et les gens sont venus de villages tellement lointains, de villes lointaines, pour rendre hommage à Sohan alors qu'ils ne la connaissaient même pas. Je sais que je ne voulais pas revenir parce que c'était vraiment. J'avais l'impression qu'elle était là et qu'elle se sentait bien, quoi, loin de cette cité, loin de.
Pour finir, juste comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, Sohan ?
Sohan, pour moi, c'est la Jeanne d'Arc des cités. Dans un premier temps, bien sûr, c'est ma petite sœur. C'est la martyre des cités. Et c'est. Je crois que c'est. J'espère qu'elle va rentrer dans la grande histoire. Et l'histoire la plus belle, quoi.
Parce que Kaina, c'est un prénom très fort dans la culture berbère, dans la culture kabyle. Il y a une vraie signification, vous la connaissez ?
Ouais, c'est la reine des berbères, enfin, ouais, qui est montée au créneau et tout ça. Ouais, mais bon, je la connais, c'est mon père qui m'a d'ailleurs donné ce prénom, mais bon. Pour moi, c'est Swan, quoi. Swan, la Jeanne d'Arc des cités.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, rediff d'été cette année-là, l'année 2002-2003, des Pieds sur Terre avec l'histoire de Kaina, la sœur de Soane. Sachez que depuis la première diffusion de cette émission, c'est-à-dire il y a 12 ans de cela, Kaina a obtenu son master en administration économique et sociale. Elle est venue vivre à Paris, elle a occupé de nombreux emplois et elle prépare aujourd'hui des concours de la fonction publique. Elle nous dit, je cite, « Je cherche toujours ma place ». Un reportage de Leïla Djitli réalisé par Angélique Thibault. L'attachée de production, c'était déjà Sandrine Chaperon et ses Marie Placet qui s'est occupée de remettre en boîte, comme on dit, cette rediffusion. Merci toujours à Kaina. Et voilà, je vous souhaite une bonne après-midi à l'écoute de France Culture. Dans quelques instants, vous retrouverez les continents musique de France Culture.